20h-21h, France Info, les informés, Aurélien Accard.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info. S'en prendre à un homme d'église, c'est s'en prendre à l'âme de la France. Les mots de Gérald Darmanin à son arrivée ce soir à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, où un prêtre a été tué par un homme qu'il hébergeait dans sa congrégation. Passé le choc, la récupération quasiment immédiate à droite et à l'extrême droite. On dénonce les failles de l'État. Le ministre répond, on en débat dans un instant. Une grande partie des informés ce soir sera consacrée au dernier rapport du GIEC, les experts du climat. Ils nous dressent un état des lieux qui va de catastrophique à cataclysmique. On va avoir chaud, c'est sûr. Mais surtout, combien de temps l'humanité peut-elle encore fermer les yeux devant cette alerte rouge qui nous menace tous? On verra aussi tout à l'heure comment s'est passée cette première journée sous le signe du pass sanitaire élargi. Et puis les ambitions olympiques de la France. Paris 2024, c'est dans moins de 3 ans. Le drapeau olympique est bien là, mais aurons-nous suffisamment de médailles pour faire rêver les Français? Le bilan de Tokyo à cet égard est plutôt mitigé. On accueille les informés ce soir. Michel Taub, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonsoir Antoine Boulet.
Bonsoir.
Président de Bien Commun Advisory, cabinet de conseil en stratégie et de communication. Et puis bonsoir à vous Franck Tapiro.
Bonsoir.
Publicitaire, on vous a pas entendu dire bonsoir, on va vous redire bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, ça marche très bien.
Je serai à la Mourouzi, c'est pas mal.
On est parti, très bien. Mourouzi, numéro 2, Franck Tapiro, donc avec nous ce soir dans les informés. C'est parti. Une enquête pour homicide volontaire est donc ouverte. Après la mort d'un prêtre en Vendée, le père Olivier Maire, qui dirigeait la communauté religieuse des Montfortins, il a été tué par un homme de 40 ans, un Rwandais qui s'est rendu de lui-même à la police. Homme déjà connu de la justice, suspecté d'être à l'origine de l'incendie de la cathédrale de Nantes l'an dernier. Il était d'ailleurs sous contrôle judiciaire et depuis, il résidait justement dans cette communauté religieuse qu'il avait accueillie. Il sortait d'un mois en hôpital psychiatrique. Bref, beaucoup d'éléments dans cette histoire sont à prendre avec des pincettes, mais ça n'a pas empêché les nombreuses réactions des politiques, réactions Michel Taub quasiment immédiates.
Écoutez, c'est vraiment dramatique. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, pas que chez les catholiques de France. Je pense à cette communauté de religieux qui doit être terriblement frappée et dans la douleur ce soir. Oui, il y a de la récupération politique, mais enfin, en même temps, il y a quand même des questions qui se posent. Il y a Yves Tréhard, directeur de la rédaction du Figaro, qui signe un article ce soir dans le Figaro qui parle de faillite française. Et je me demande s'il n'a pas raison, parce que quand même, franchement, voilà un homme qui a été poursuivi pour avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes. Pourquoi n'a-t-il pas été jugé en comparution immédiate? Pourquoi est-ce que plus d'un an après, il n'a toujours pas été jugé? Pourquoi, par exemple, ce qui est à mon avis une spécificité française, ou plus exactement une anomalie française, pourquoi ce conflit entre le droit administratif, c'est-à-dire d'un côté l'administration qui a demandé son expulsion, et de l'autre la justice pénale, qui a demandé à le conserver sur le sol pour pouvoir poursuivre son enquête et éventuellement l'auditionner, pourquoi est-ce que le droit administratif ne serait pas partie du tout du droit pénal, et ce qui aurait peut-être permis de faire primer son expulsion sur une enquête qui allait durer beaucoup trop longtemps. Il y a quand même des anomalies très, très importantes. Et j'aimerais dire une dernière chose. Franchement, si un crime comme celui-là, si un fait comme celui-là était arrivé une semaine avant l'élection présidentielle, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu comme impact sur l'élection présidentielle? On est sur un incendie là actuellement dans notre société. Il y a des drames dans notre société qui commencent à voilà, et donc ce drame, il est vraiment extrêmement triste, et encore une fois avoir une pensée pour les catholiques de France, mais c'est pas que eux, c'est toute la communauté nationale qui est meurtrie par ce double crime.
Antoine Boulet.
Non, je trouve que ces propos, et ceux d'ailleurs des récupérations politiques de tous bords, sont indécents parce qu'on oublie quelqu'un. On oublie Olivier Maire. Olivier Maire qui était le supérieur des Montfortins et qui a fait le choix, contre la justice pénale, la justice administrative, que sais-je, d'accueillir ce réfugié qui était déséquilibré psychiatrique. Donc comment nous pouvons juger mieux que la victime, mieux que celui qui a décidé d'accueillir cet homme sous son toit? Nous pouvons juger, on aurait dû l'expulser, on aurait dû l'enfermer, on aurait dû... Que sais-je. Si on veut respecter l'âme catholique, l'âme chrétienne, respectons la décision du supérieur Montfortin. Assassiné, certes, mais qui avait fait le choix d'héberger cet homme.
dans son parcours d'épouvante, certainement, réfugié du Rwanda. Donc je ne dis pas, c'est très grave, bien entendu, mais sur nos fauteuils ou sur les fauteuils des politiques, donner son avis sans partir d'abord d'un fait, cet homme a été accueilli par ce prêtre. Donc si on veut penser à ces valeurs chrétiennes, indépendamment de la laïcité, mais qui animent avec d'autres notre pays, prenons en compte ce fait. Le prêtre savait ce qu'avait fait cet homme à la cathédrale. Il savait qu'il était déséquilibré psychiatrique. Il avait fait le choix de l'accueillir sous son toit. Ça doit être pris en compte dans l'analyse et dans les paroles détestables qu'on entend à ce sujet.
Franck Tapiro.
Alors, je suis assez d'accord, je vais essayer de réunir les deux points. Malheureusement, je suis d'accord avec les deux parties, mais il y a un autre facteur encore plus important, et celui-là, vous avez totalement raison. L'autre facteur, c'est la justice. Et la faillite dont parle Yves Tréhard dans Figaro, c'est la faillite de la justice, une fois de plus. C'est que même si le choix humain, chrétien, au vrai sens du terme, on ne peut que l'honorer, on ne peut que s'en féliciter, on ne peut que dire que c'est même un exemple. Mais ce choix-là n'aurait pu être fait si la justice pénale, c'est l'application des peines, avait fait son travail avant. Pourquoi ? Parce qu'il n'aurait pas pu, même si humainement, et c'est totalement normal, vu la psychologie de cette personne, vu son âme, vu sa philosophie, et vu
De la victime, vous voulez dire, oui.
De la victime, bien entendu. Qu'il ait voulu accueillir cette personne, parce qu'il n'était pas considéré comme coupable au moment où il l'a accueilli. Alors que si la justice avait accéléré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on aurait eu un coupable en face de nous, un coupable plus
incarcéré,
que présumé.
Peut-être, oui.
Incarcéré, il n'aurait pas pu. Donc encore une fois, en valeur absolue, vous avez raison, mais malheureusement, vous avez tous les deux raison, mais tous les deux torts, et de bonne foi, c'est que nous subissons ensemble aujourd'hui la faillite judiciaire permanente. Et je vais rappeler, puisque j'en suis aussi un des instigateurs, l'affaire de Sarah Halimi, c'est la même chose. Avec cette bouffée délirante, on va maintenant peut-être dire que cette personne avait aussi une bouffée délirante. Et donc, quand on a une bouffée délirante, à l'époque de Sarah Halimi,
on
a tous les droits. On peut fumer un joint et on sait qu'on a des bouffées délirantes, surtout quand on est multirécidiviste. Et donc, quand on s'administre un joint, eh ben on tue derrière, on n'est pas responsable. Donc, tant qu'on est dans une société d'irresponsabilité au niveau légal,
mais
au niveau pénal...
Il y a eu un procès quand même dans cette affaire-là de Sarah Halimi.
Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Nous battons. Pourquoi nous ? Parce que j'ai co-organisé avec Jonathan Béard le rassemblement du 25 avril, place du Trocadéro, pour demander un procès. Le procès a été refusé justement parce qu'on a décidé que la personne, il y avait une abolition totale du jugement, ce qui est une aberration. Et évidemment, on réagit après, a posteriori, quand c'est trop tard. Alors qu'on sait qu'il n'est pas fou, qu'il va être libéré.
Et pour revenir sur l'affaire d'aujourd'hui,
c'est la même chose.
La réaction, elle arrive très vite.
Mais c'est la même chose. C'est la lenteur. On ne nomme pas les choses. S'il est fou, complètement fou, certes, mais maintenant, s'il a juste une petite perturbation au niveau de son jugement, il doit être incarcéré.
On va faire un tour de parole dans un instant, mais on marque une courte pause. Le Fil Info, les dernières informations de Frédéric Beignada à 20h11.
France Info.
France Info, les informés. Aurélien Accard.
À les informer ce soir, Michel Taube du site d'information Opinion Internationale, Antoine Boulet et Franck Tapiro ont parlé de cette enquête pour homicide volontaire qui est donc ouverte après la mort d'un prêtre en Vendée. Et je vous voyais réagir juste avant qu'on marque une courte pause pour l'information, Michel Taube.
J'aimerais non pas répondre à Antoine Boulet. Évidemment, il faut tenir compte du fait qu'il a été accueilli, ou plutôt que le prêtre a accueilli son futur bourreau. C'est vrai. Mais la société ne peut pas avoir cette position de celle du prêtre. Ça n'est pas possible.
On ne peut pas tenir compte.
Non, mais moi je...
Voilà.
Mais moi je pense...
Ne pas tenir compte, être plus extrémiste
bien
que
sûr.
La victime.
Non, mais écoutez...
Voyons ce que réagit sa communauté, non, sa famille.
La question, c'est que doit faire la société face à des...
Mais comment
possible
vous pouvez,
comportement comme
comment
ça
pouvoir excusez-moi, déduire d'un événement, d'un fait divers dont on n'a même pas l'enquête, déjà ce que doit faire la société? Vous avez déjà une idée en tête, c'est qu'il faut réprimer, exclure, expulser.
Vous n'avez
pas besoin de ce fait pour avoir ces idées, donc c'est pas la peine de vous appuyer sur ce fait, Michel.
Non, c'est pas ça.
Ce sont vos idées, c'est votre droit d'ailleurs.
Non, c'est que la société a le droit d'être choquée.
Oui, c'est facile d'encourager la société à être choquée, mais c'est facile de rappeler.
Mais alors, qu'est-ce que vous prenez ?
Dans le cas particulier de cet assassinat, je dis, écoutons le prêtre. On se drape. Vous savez, comme dit Peggy, tout commence en mystique,
mais
tout finit en politique.
Mais vous aussi, vous le faites parler, le prêtre.
Le prêtre a parlé.
Antoine Boulay, le prêtre, aurait voulu être assassiné par son bourreau.
Antoine Boulay, un tout dernier mot tout de même sur le court délai entre effectivement cette horrible histoire que l'on découvre dans l'après-midi et les réactions qui sont effectivement d'une virulence. C'est quand même un phénomène assez nouveau que l'on commente aussi fortement sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Et là, je vous rejoins.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la vérité, c'est que les gens ont leur idée et que les faits viennent alimenter les idées existantes, alors que les idées doivent être alimentées par les faits. Et dans ce fait, il y a un fait incontestable, qui est que cet homme avait été accueilli par cette communauté religieuse et que ce sens de l'accueil doit, à mon avis, inspirer notre société en grande partie.
On va beaucoup revenir. En tout cas, je précise que Gérald Darmanin explique que lui, l'État n'a pas failli. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Ce soir, on va passer à un autre sujet pour lequel les faits sont désormais impossible à repousser, c'est le réchauffement climatique. Emmanuel Macron appelle un accord à la hauteur de l'urgence lors de la prochaine conférence des parties, la COP26, qui est prévue en novembre prochain à Glasgow. On va en revenir longuement ce soir dans les informés, sur notamment le dernier rapport du GIEC, rapport qu'on peut résumer, messieurs, en deux mots, alerte rouge pour l'humanité. Le réchauffement climatique est pire et plus rapide qu'on le craignait. Et on accueille d'ailleurs dans les informés à cette occasion un quatrième débatteur. Bonsoir Arnaud Goffier.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des programmes à l'ONG WWF. Bienvenue à vous. Dans tous les scénarios, selon les scientifiques du GIEC, la planète va atteindre le seuil de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ce réchauffement, il est déjà là, assure le climatologue Robert Votard, l'un des co-auteurs de ce rapport du GIEC. On va l'écouter.
On observe de plus en plus de phénomènes qui sont liés au changement climatique dans beaucoup de régions du monde. Et dans toutes les régions du monde, on voit une signature sous une forme ou sous une autre de ce changement climatique dont on connaît l'origine, qui est humaine aujourd'hui.
Le climatologue Robert Votard, on retient deux choses de ce court extrait. Le réchauffement climatique est déjà là, plus fort que prévu, et la responsabilité de l'activité humaine est désormais clairement et scientifiquement établie. C'était sur cet aspect-là que s'étaient reconvertis les climato-sceptiques ces dernières années. Arnaud Goffier, ce rapport du GIEC n'est pas une surprise, mais est-ce qu'on peut dire ce soir que c'est un peu la dernière alerte avant extinction de l'espèce humaine, où on va un peu trop loin?
On va pas dire ça, parce qu'on le dit à chaque fois, et ça, il sert à rien de jouer les catastrophistes absolus. Quoi qu'il en soit, la situation quand même est catastrophique. Ça fait 40 ans que les scientifiques du GIEC nous alertent, 40 ans que leurs prévisions scientifiques se réalisent, voire même qu'ils sont plus optimistes que la réalité. On le voit aujourd'hui avec les catastrophes. Et ce que montre ce rapport du GIEC, c'est surtout que, en fait, là, tous les événements climatiques aujourd'hui, et notamment les catastrophes climatiques, sont dopés par le réchauffement climatique. Et certains climatologues disent qu'on a un climat sous stéroïde, vraiment dopé avec des événements d'une ampleur qu'on n'a jamais connue, voire même qui n'était absolument pas prévu par aucun des modèles du GIEC, voire même les plus pessimistes. Donc c'est ça qui est vraiment inquiétant. Alors que nous sommes à seulement, je dirais, entre guillemets, plus 1,1 degré de réchauffement global aujourd'hui, et que les trajectoires, si on continue sur les mêmes trajectoires d'émissions, ça nous amène à 4 ou 5 degrés de réchauffement. Là, ce qui augure d'un avenir assez apocalyptique.
Franck Tapiro, sur ce rapport du GIEC, vous, quand vous voyez qu'on nous dit qu'on est dans la pire des pires scénarios et qu'il n'y en a pas un seul qui va dans le bon sens, vous réagissez comment?
Déjà, ce n'est pas surprenant, parce qu'il faut savoir qu'ils se sont tous trompés, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ils pensaient que ça allait être une catastrophe. En fait, c'est une super catastrophe qui s'annonce. Donc, regardez, dans tous ce qu'on appelle le catastrophisme, parce qu'on est dans une ère aujourd'hui où on ne peut pas juste dire la vérité, on ne peut pas juste croire à la science. Ouh là là, la science, ça fait peur à tout le monde. Vous voyez bien que les résultats, là, les probabilités, les statistiques sont bien pires que ce qu'on avait imaginé déjà de pire. Et moi, je voudrais faire le lien, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte. Mais dans le contexte ambiant, moi, je rapproche ça des antivax. Pourquoi ?
Vous rapprochez quoi des antivax ?
Le scepticisme généralisé. D'accord. Qu'il y a par rapport au climat, le scepticisme généralisé sur la politique, le scepticisme généralisé sur le vaccin, généralisé sur les sciences. On ne croit plus en rien. Quand on croit en rien, on commence à croire n'importe quoi, comme ce qui se dit. Et voilà pourquoi on a du retard au démarrage pour que des vraies politiques publiques puissent intervenir pour qu'il y ait une vraie prise de conscience généralisée, bien que nous soyons aujourd'hui déjà dans une inversion en termes d'éducation, puisque ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. Et vous savez très bien que le sujet numéro un, c'est l'environnement, c'est le rapport à la planète. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Encore une fois, le vaccin, qu'est-ce qu'il faudrait de plus ? Il faut que d'autres variants viennent tuer des enfants pour que les anti-vax comprennent leur folie criminelle, parce que c'est un crime. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour le climat ? Il faut qu'on ait encore une fois des incendies partout en Grèce, partout dans le sud de la France, partout en Italie, partout en Californie où là on bat des records. Qu'est-ce qu'il faut ? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens croient et la foi ? Oui, le monde entre dans une crise de foi généralisée et c'est ça le vrai problème.
On va en parler dans une minute. On va poursuivre ce débat sur le rapport du GIEC avec notamment Michel Taube et Antoine Boulet dans Les Informés. Mais d'abord à 20h20, un nouveau point complet sur l'information de ce lundi. Le Fil Info, Frédéric Beignada.
France Info, Les Informés. Aurélien Accard.
Avec ce soir Michel Taube du site d'information Opinion Internationale, le publicitaire Franck Tapiro, Antoine Boulet, président de Bien Commun Advisory, et aussi en ligne avec nous Arnaud Goffier du WWF. Michel Taube, on entendait avant le Fil Info la réaction de Franck Tapiro qui nous disait mais qu'est-ce qu'il faut pour que on prenne conscience de la gravité des faits. Là, en l'occurrence, on le voit très bien, les incendies énormes, ils sont déjà là, la montée des mers est déjà là également. Et pourtant, on est seulement en train de dire on va prendre de grandes mesures la prochaine fois.
D'abord, je suis presque étonné que vu l'alarmisme de ce rapport, une de ses conclusions, ce soit de dire qu'en 2030, on va dépasser les plus 1,5 degrés. La température ressentie de surtemperature, elle est beaucoup plus élevée que 1,5 degré.
C'est en moyenne par rapport à l'air plein du ciel.
Mais moi, je crains qu'en fait...
On retienne ça.
Qu'on retienne ça et que les scientifiques, dans leurs conclusions, sous-estiment leurs prévisions, qui, à mon avis, sont clairement sur les pires hypothèses qui ont pu être envisagées. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis intimement convaincu que psychologiquement, lorsqu'on va droit dans le mur, on se le cache et on ne veut pas le voir. Et que la réalité, c'est que toute la société humaine, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, où il a fait 45 degrés, au Canada, même 50 degrés. Je crois que quand on en est arrivé à un tel degré, c'est pas du plus 1,5, c'est du plus 10, c'est du plus 15 degrés. Donc, comme on est face au mur, il y a une forme de phénomène psychologique de ne pas vouloir le voir. Parce que, voilà, troisième point que je voudrais dire. Ça, c'est que la première partie du rapport du GIEC qui a été dévoilé aujourd'hui, le 9 août, c'est-à-dire en plein milieu de l'été, quand beaucoup de Français sont à la plage pour ceux qui ont pu y aller ou sont en train de se reposer.
Ça, c'est le constat.
C'est le constat, mais il va y avoir les solutions. Et là, ça va faire encore beaucoup plus mal. Parce que, évidemment, pour s'adapter à cette crise terrible et à ce réchauffement climatique et à ce dérèglement climatique, plus on attend et plus les mesures qu'il va falloir prendre vont être très 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 douloureuses. Pour répondre un peu à ce que disait Emmanuel Macron qui en appelle à la COP26 qui aura lieu à Glasgow, commençons déjà par appliquer l'accord de Paris de 2011 qui est loin d'avoir été respecté par les États. Franchement, je trouve ça presque indécent de s'en remettre à une réunion des Nations Unies alors qu'on n'est même pas capable de mettre en œuvre les accords qu'on a de haute lutte arrachés en 2011 sous la présidence de François Hollande.
Antoine Boulet.
Moi, je ferai deux remarques. La première, il y a effectivement un sujet de gouvernance. Quand on prend un problème endémique au niveau mondial qui a vraiment perturbé la vie des nations depuis des années, qui est l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, on voit que sous l'égide de l'OCDE, quand le G8, puis le G20, puis l'OCDE se mettent en cheville pour faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Et je pense que ce sujet du GIEC, c'est très utile d'avoir des experts, mais ce n'est pas les experts qui font la politique. C'est un peu comme le comité de santé, là, pour refaire la comparaison avec le Covid. C'est les politiques qui font la politique. Donc de ce point de vue, je trouve qu'il y a un enjeu de gouvernance mondiale du climat. On a parlé d'Organisation mondiale du climat. Bon, et d'ailleurs, si on prend les trois grandes zones émettrices que sont l'Europe, la Chine, enfin la zone sino-asiatique et les États-Unis, la Chine s'est placée sur une trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050 et on peut penser avec l'énergie politique, économique qu'ils ont et autoritaire, si j'ose dire, ce qui n'est pas une qualité, qu'ils vont y parvenir. L'Europe, avec l'agenda Fit for 50, 45% de baisse supplémentaire, bon bref,
se met aussi en situation. Donc, sujet de gouvernance. Deuxième sujet, simplement, sur les solutions. Il y a des solutions évidentes, parce que tout le monde est d'accord sur le constat, mais une solution évidente, c'est la complémentarité des énergies, en l'occurrence nucléaire renouvelable. On le sait que le nucléaire aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De ce point de vue-là, les militants écologistes radicaux portent une lourde responsabilité dans le fait d'avoir empêché les États de passer au nucléaire massivement. Si le mix énergétique mondial était celui de la France, la courbe du réchauffement des émissions de gaz à effet de serre aurait été 8 fois inférieure. Donc, un, le nucléaire. Deux, au niveau mondial. Deux, et dernier point, le mix avec le non renouvelable, avec les renouvelables, les ENR. Quand je vois les polémiques qu'on a sur l'éolien en France ces dernières semaines, c'est indigne. Il faut des éoliens. C'est comme Lagerfeld disait du Gilet jaune, c'est moche, mais ça peut vous sauver la vie. Ben, les éoliennes, c'est pareil.
Arnaud Goffier de WWF, on entend la critique aussi de certaines ONG qui sont contre le nucléaire. Mais d'abord, vous nous confirmez que ce rapport du GIEC, il confirme que finalement, on est presque en train de s'orienter sur la pire des hypothèses, et c'est ce que dit le GIEC depuis un moment déjà.
Ah oui, la trajectoire, on est parti pour plus 4, plus 5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle et comme ça a été dit, dépasser cet objectif de 1,5 degré de réchauffement climatique qui était le maximum à ne pas dépasser fixé par l'accord de la COP21 en 2015.
À la fin du siècle, hein, c'est énorme.
Voilà, à la fin du siècle, on va le dépasser potentiellement d'ici 2030. Donc on est vraiment complètement hors des clous de ce point de vue-là. Et tous les États, à commencer par la France, je pense qu'il faut balayer devant notre porte avant tout, ne sont pas capables de mettre en place des politiques fortes de réduction des émissions. Les émissions de gaz à effet de serre en France, c'est essentiellement le transport. Vous avez vu qu'on vient de loter une loi climat il n'y a pas longtemps. Toutes les mesures sur le transport ont été tirées vers le bas. On renvoie l'effort aux années suivantes. On avait 40% de réduction de gaz à effet de serre en France comme objectif fixé pour 2030. On va commencer le travail à partir de 2024, alors qu'on aurait pu le faire à partir de 2016. Tout a été renvoyé à la fin et donc la marche est de plus en plus haute. Ça a été dit par certains de vos intervenants, la marche a monté de plus en plus haute et donc ne sera de moins en moins acceptable et acceptée par les citoyens, par les sociétés, parce que les efforts vont être colossaux. Que ce soit pour l'adaptation, pour s'adapter à ce climat qui change, ou réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est vraiment la responsabilité de nos gouvernants que de faire en sorte d'avoir des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre robustes, des politiques d'adaptation qui, pour le moment, sont inexistantes à travers le monde, et puis qui soient justes, qui soient réparties en fonction des moyens de chacun, que ce ne soient pas les mêmes qui payent pour tous.
On a un mot, Michel Top, très rapidement, parce qu'on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est la méthode même employée par tous les États qui parlent d'engagement sur des objectifs. Et des objectifs à 2030, à 2050. Il ne s'agit plus d'objectifs, là. Il s'agit d'actes concrets. Et je pense que c'est même la méthodologie de simplement travailler sur des objectifs qui, à mon avis, est problématique. Et dernier point, je rappelle, en 2011, l'accord de Paris, Barack Obama était venu et, à dernière minute, avait fait changer la clause principale des accords pour la transformer de contraignante à un objectif d'effort vert. Biden, qui est son vice-président et aujourd'hui président des États-Unis, espérons qu'à Glasgow, ils prendront des engagements beaucoup plus fermes et beaucoup plus contraignants. Là, il ne s'agit plus d'objectifs, il s'agit d'actions concrètes.
On va en reparler dans 2 minutes plus précisément, la suite des informés de France Info et ce rapport du GIEC, alerte rouge pour l'humanité. A tout de suite.
France Info Météo, avec les meubles Gauthier, le spécialiste de l'agencement d'espace et du rangement pour toutes les pièces de la maison, à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Les prévisions sont signées Jean-Pierre Hameau.
Demain matin, vous allez retrouver une forte nébulosité avec toujours des averses passagères au nord de la Loire et de la Seine. Partout ailleurs, votre matinée sera ensoleillée. Prévoyez tout de même un voile assez épais de nuages d'altitude entre la Gironde et le Limousin, lâchant quelques gouttes de pluie par moment. L'après-midi, les nuages resteront au menu entre la Normandie et l'ouest parisien et jusque vers les frontières belges. Les éclaircies vont se développer tout de même de la Bretagne au pays de la Loire, mais aussi vers le Dunkerquois. Et puis dans les autres régions, l'ensoleillement sera généreux. À noter des développements orageux sur le relief des Pyrénées ariégeoises et un coup de tonnerre possible du côté de l'Auvergne sous un ciel laiteux. Côté température, les maximales évolueront entre 19 et 27 degrés dans la moitié nord, comptez 28 à 34 degrés dans la moitié sud.
Jean-Pierre Hameau à Météo France, très bonne soirée à l'écoute de France Info, il est
20h30. 20h, 21h, France Info, les informés, Aurélien Accard.
Les informés ce soir, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Antoine Boulet, président de Bien Commun Advisory, cabinet de conseil en stratégie de communication, le publicitaire Franck Tapiro, et toujours avec nous Arnaud Goffier, responsable des programmes à WWF. W, j'ai mis un W en trop même. Mais c'est pas grave, puisqu'on parle de ce rapport du GIEC, rapport alarmant qui a été dévoilé ce matin. Arnaud Goffier nous disait juste avant l'interruption et dans la fin de la première partie, qu'à force de repousser nos efforts, finalement, la marche allait devenir trop haute. C'est également ce que dit Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Elle dit qu'elle, il faut faire la transition maintenant en 10 ans. Franck Tapiro, vous qui êtes publicitaire, comment on vend cette idée-là parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément agréables à première vue pour les gens en termes de consommation, en termes de beaucoup de choses auxquelles on est habitué.
Alors déjà, il y a une dialectique, il va bien falloir l'accepter. C'est confort ou effort. C'est très simple. Est-ce qu'on continue, comme partout dans le monde, parce que c'est la mode, hein, de vivre dans un confort absolu? Vous savez, la souffrance n'existe plus, on n'est plus malade, on n'a plus rien, on fait tout pour ne pas avoir mal, nulle part, on ne sacrifie plus rien. Ou est-ce que de l'autre côté, on décide enfin d'habiter sur la même planète que les autres, et c'est-à-dire qu'il va tous, je dis bien tous, falloir faire des efforts. Les efforts, c'est peut-être des sacrifices, c'est vivre différemment, vivre autrement. C'est pas dire moins bien, c'est dire différemment, avec un objectif qui est comment éviter le drame. Et tant qu'on n'a pas intégré, d'abord ça part des politiques, ça part des citoyens que nous sommes, tant que nous n'avons pas intégré cette double dialectique, on ne s'en sortira pas. Tant que les gens font passer leur confort avant tout, comme les anti-vax, et inévitablement, on arrivera tous dans le mur de la vaccination, on le verra très vite avec de nouveaux variants qui seront pires encore que cela.
Non mais c'est on lié. Va en parler après si vous voulez, mais pour l'instant on parle de l'environnement.
Désolé de vous dire que c'est le même sujet. Ce serait une erreur de dire que c'est un autre sujet. C'est le même sujet. On parle à des gens qui, aujourd'hui, ont un cerveau qui a complètement vrillé, qui sont retournés sur eux-mêmes. L'autre n'existe plus. Et quand l'autre n'existe plus, je ne me fais pas vacciner et je ne fais pas d'effort pour la planète. Donc c'est la même chose. Ouais. Deuxième chose politique, le timing est le plus important. Si on n'accélère pas le temps alors qu'aujourd'hui, on voit bien que l'incidence négative accélère, on va se planter. On arrive avec des mesures qui arriveront trop tard. Donc ce n'est pas 2030, c'est tout de suite. Et donc, tout de suite, la COP26, est-ce que des grands dirigeants oseront dire, on avait donné 5 ans, 10 ans, on s'est gouré, d'abord, pardon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce sur quoi on s'engage tout de suite. Si on ne fait pas ça là, pour la prochaine COP, ce sera un ratage total.
Antoine Boulet.
Alors, plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas perdre de vue que ce réchauffement climatique, c'est-à-dire l'augmentation qui est due principalement à l'augmentation des gaz à effet de serre, CO2 mais aussi méthane, est liée à l'augmentation de la population. Quelques chiffres, entre 1960 et 2018-17, la production mondiale a été multipliée par 12, la population a été multipliée par 2,5, mais dans le même temps, la malnutrition a stagné, c'est-à-dire que la population s'est accrue, mais le niveau de vie général de la population a augmenté considérablement, et les émissions de CO2 ont été multipliées par 4. Autrement dit, la production des émissions de CO2, des gaz à effet de serre, va 3 fois moins vite que la production des biens produits. C'est une bonne nouvelle. Ça signifie que notre appareil de production au niveau mondial est de moins en moins émetteur. Simplement, comme la croissance est très importante, liée en grande partie à la croissance de la population, il y a néanmoins de plus en plus d'émissions. Autrement dit, la solution, comme toujours, ce sera l'innovation, la technologie, l'invention, le génie humain. Et donc, quand je vois qu'en France, on est au contraire dans une dynamique de restriction, de comparaison avec les autres pays qui n'ont pas de sens, puisque précisément, on a un mix énergétique différent. Donc, si ce que nous dit Barbara Pompili, c'est tout de suite allons à la décroissance, sens, ça ne servira à rien, ça sera remplacé par des productions moins vertueuses en carbone venues d'autres pays. Donc au contraire, la France doit renforcer son appareil productif dans la période. C'est ce qui est très difficile pour nous en France dans ce contexte.
Monsieur Boulet, sur ce point de la démographie, je suis 100% d'accord avec vous, mais ce n'est pas l'innovation, la technologie qui va réduire
le rythme d'augmentation. Non, ça va rendre la production encore plus vertueuse en carbone.
Il y a aussi un problème d'augmentation de la population mondiale. Et le problème, c'est que les régions du monde où il y a une forte augmentation de la population mondiale ne veulent pas non plus prendre leur part de responsabilité dans l'effort collectif que nous avons à faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je suis d'accord, les problèmes viennent notamment de l'augmentation de la population mondiale. Après Barbara Pompili, Emmanuel Macron qui s'expriment, le gouvernement a fait adopter une loi sur la lutte contre le réchauffement climatique.
Mais qui est dangereuse pour l'économie française et pour le réchauffement
climatique. Mais qui est aussi désapprouvée par beaucoup d'acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc qu'est-ce qu'on veut? Des pétitions de principe ou des actes très concrets? Je note d'ailleurs que ces rapports vont faire le jeu des écologistes. En Allemagne, les écologistes qui sont beaucoup plus sérieux que les écologistes français, ils sont en course
pour tenter de prendre la chancellerie allemande. Mmh. Donc il va y avoir des conséquences politiques également sur le réchauffement climatique.
Arnaud Goffier, l'ONU dit carrément que ce rapport, c'est le rapport du GIEC, ça doit sonner le glas du charbon et des énergies fossiles. Et donc Barbara Pompili dit qu'il faut faire ça désormais en 10 ans. Est-ce que c'est la seule chose à faire ou il y a d'autres choses très concrètes à faire très rapidement et notamment en France?
Ah ben non, il y a plein d'autres choses à faire, mais effectivement, l'urgence, c'est de sortir de notre addiction aux énergies fossiles. Ça, c'est clair et net au niveau mondial, mais aussi en France. Hein. Je disais tout à l'heure, la plupart de nos émissions proviennent du transport. Notre transport, il est majoritairement basé sur la consommation d'énergies fossiles aujourd'hui en France. Donc ça, c'est l'urgence. Première chose, que les gouvernements arrêtent de subventionner le recours aux énergies fossiles. Il y a énormément de subventions publiques qui sont encore versées à travers le monde pour avoir recours aux énergies fossiles. Ça peut être une première mesure. Et puis, on parlait du méthane tout à l'heure. Autre chose très concrète, le méthane, il est à 80% d'origine humaine. Les émissions proviennent à 80% d'origine humaine. C'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur à celui du CO2. Et il provient essentiellement de l'agriculture, en particulier de l'élevage de bovins, de ruminants. Donc manger moins de viande, consommer moins de viande à l'échelle globale, ça peut être un très bon point pour le climat, mais aussi pour les questions de biodiversité, puisque l'agriculture, l'extension des pâturages notamment et des surfaces pour nourrir les animaux, c'est la première cause de déforestation mondiale.
Allez, un tout dernier mot.
Un problème de biodiversité et puis de carbone.
Par rapport à ça, oui, moins de viande, mais au niveau mondial, en Argentine, et pas en France. En France, il y a une agriculture extensive, très vertueuse, et l'agriculture en France, elle piège du carbone grâce à la terre et au sol. Donc, c'est ça qui est très difficile, c'est de ne pas plaquer en France des solutions qui sont juste au niveau mondial.
Mais attendez, on importe 4 millions de tonnes de soja par an depuis le Brésil.
Mais parce qu'on peut le faire en local, vous avez tout à fait raison, on peut le faire en polyculture élevage, en local, c'est très juste.
Voilà, l'illustration que ça ne sera pas si simple que ça, le fait de lutter contre le réchauffement climatique, même s'il y a urgence. On va clore ce dossier pour ce soir. Le Fil Info à 20h40, avec vous Frédéric Beignada.
France Info, les informés, Aurélien Accard.
Et toujours avec nous ce soir dans les informés, le publicitaire Franck Tapiro, Antoine Boulet, président de Bien Commun Advisory, et Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale. On en vient à notre troisième sujet, le pass sanitaire, qui est donc devenu aujourd'hui l'accessoire obligatoire pour toute sortie au bar, au restaurant, pour tout voyage longue distance en train, en car ou en avion, avec pour cette première semaine de rodage un peu de tolérance tout de même, alors que les manifestations ce week-end contre ce dispositif ont réuni dans toute la France quelques 237 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Michel Taub, la façon de faire du gouvernement et notamment de donner un petit peu de lest hier en faisant passer la validité des tests, notamment de 48 à 72 heures, le fait de pouvoir recourir aux autotests sous supervision médicale, est-ce que cette façon de faire est la bonne, un peu de pragmatisme au moment d'une mesure assez, assez contestée?
Moi je pense que les annonces d'Olivier Véran dans Le Parisien aujourd'hui en France hier répondent tout simplement à un engorgement dans les laboratoires, les pharmacies et tous les lieux où on peut faire des tests. C'est-à-dire que là, il y a des files interminables et s'ils ont allégé les délais, c'est pour justement pouvoir gérer non pas la pénurie de tests, mais la pression sur tous les lieux où on peut faire des tests. Moi, je pense que ça correspond vraiment à cela. Après, le fait qu'on annonce en même temps donc l'entrée en vigueur du pass sanitaire et qu'à ce même moment, on dise pas la peine de porter un masque dans les lieux d'accès avec le pass sanitaire, je trouve qu'il y a des contradictions dans le discours macronien auquel nous sommes accoutumés depuis maintenant plusieurs années et qui ne contribue pas, à mon avis, à calmer les opposants au pass sanitaire. Il y a un front de la défiance qui est en train de monter très très fortement et auquel, de toute façon, ce ne sont pas des réponses rationnelles qui permettront de répondre.
Vous me donnez l'occasion de donner la parole à Benjamin Davido, qui est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Lui, il revient justement sur les deux aménagements proposés par le gouvernement, le test valable 72 heures et le fait, vous en avez parlé, de pouvoir enlever le masque à l'intérieur pour les lieux soumis à passe sanitaire. Et pour lui, c'est carrément prématuré. Benjamin
David. Vous prenez l'exemple typiquement de l'Allemagne depuis plusieurs mois, parce qu'on oublie de le dire, mais il y a un pass sanitaire qui existe dans plusieurs landeurs. Ils sont sur des tests antigéniques toutes les 24 heures. Les Pays-Bas, qui étaient toutes les 48 heures, sont passés à toutes les 24 heures parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop perméable et qu'on laissait passer des gens contaminants en gardant une PCR à 48 heures. Donc vous imaginez, si vous laissez une PCR à 72 heures, on va augmenter la probabilité d'avoir une brebis égarée, une brebis galeuse au sein de ce pass sanitaire. Le risque, c'est de se retrouver avec un pass qui est moins efficace. Et encore une fois, si on enlève le masque en intérieur avec le pass, là, on va se retrouver dans une situation extrêmement délicate.
L'infectiologue Benjamin Davido, donc qui n'est pas tout à fait d'accord avec les dernières annonces du gouvernement, cette façon de lâcher du lest avant même l'entrée en vigueur du dispositif. Franck Tapiro, vous en pensez quoi ?
Le problème, c'est que aujourd'hui, encore une fois, quand on dit lâcher du lest par rapport au dispositif, on sait très bien que tout se rattrapera derrière. Moi, encore une fois, j'essaie à chaque fois de penser ça dans une dialectique à chaque fois très large et de me dire que un jour, on est en train de retenir, un jour, on est en train d'accélérer. Et en fait, ce qu'il y a, c'est pour ça que tout est lié depuis tout à l'heure, j'entends plein d'arguments là-dessus, c'est un problème de tempo général. On a l'impression que personne n'a le même tempo, personne n'a les mêmes informations. Et à cause de cela, il y a des décalages et de perception et de compréhension. Alors là, en plus, on est en plein été, c'est un peu plus compliqué hein, de parler aux gens quand ils ont la tête un petit peu ailleurs. Mais moi, je parle vraiment de décalage de tempo et de sens.
C'est sûr, M. Tapiro, que le tempo n'était pas très bon, que le président de la République s'adresse le 12 juillet aux Français, alors que tous les juilletistes avaient déjà pris leur disposition pour prendre les vacances.
Mais le virus n'a pas de planning.
Non, parce que le variant Delta, ça faisait un mois et demi déjà que ça commençait à se préparer. Et beaucoup ont considéré que le président de la République a eu raison d'intervenir. Mais un petit peu trop tard.
Deux Français sur trois ont reçu leur dose et c'est amusant parce que deux Français sur trois, ça va faire un peu vieux, mais Michel et tout le monde autour de cette table le saurait, avec certains auditeurs. C'était le titre d'un ouvrage de Valéry Giscard d'Estaing. C'était son projet politique de convaincre deux Français sur trois. Bon, alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, on a sans doute un Français sur cinq, un Français sur six qui est soit anti-vax, soit anti-pass sanitaire et ça donne, selon des proportions assez classiques, 200-250 000 manifestants dans la rue. Mais ces Français-là, un sur six, 1 sur 5, je ne dis pas que 1 sur 6 c'est 250 000 personnes, je dis que le rapport entre les mécontents et les manifestants est celui-là. Ces Français-là, au fond, ce sont les perdants sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont l'impression de perdre à chaque fois. C'est les perdants de la mondialisation, les perdants de l'Europe, les perdants du chômage, les perdants de la retraite, les perdants du ticket modérateur, etc., etc. Et donc, ils se disent, pourquoi est-ce que là, sur le coup du vaccin, ce qu'on va me proposer, qu'est-ce que j'en sais, moi, que ce sera gagnant ? Et donc, moi, je l'ai comprend. C'est-à-dire que notre pays, mais ce n'est pas le cas que de notre pays, l'Occident dans son ensemble, a du mal à embarquer tout le monde dans les gains, en quelque sorte. Et donc, il y a des perdants. Bon. Il faut leur dire à ces Français-là, il faut leur dire, sur ce coup-là, les amis, vous ne serez pas perdants. 4 hospitalisés sur 5 sont des gens non vaccinés. Donc sur ce coup-là, c'est en ne vous vaccinant pas que vous êtes perdant. Donc nous, on est tous contre le pass sanitaire, ça nous embête ce pass sanitaire. Mais la manière la plus simple de s'en débarrasser le plus vite possible, c'est tous se vacciner.
Franck Tapiro, il faut dire aussi que du côté anti-pass et anti-vax, parce que ce n'est pas forcément les mêmes, ils sont dans les mêmes manifs, mais ce n'est pas forcément les mêmes, il y en a aussi qui tirent les ficelles et qui instrumentalisent de l'autre côté. Vous parlez tout à l'heure du discours qui doit être clair, mais ce n'est pas facile de parler clairement quand certains racontent n'importe quoi ou une petite partie à chaque fois, ce qui se passe parfois.
Mais ils racontent n'importe quoi, encore une fois, mais il y a des gens pour les écouter, et les gens qui, encore une fois, écoutent là-dedans une forme d'instrumentalisation de leurs doutes, et pas que là-dessus.
Le
discours qu'on a envie d'entendre, et surtout, c'est une instrumentalisation politique tellement énorme, et ça fonctionne. On parlait de 250 000 personnes dans les rues, mais c'est énorme, 250 000 personnes dans les rues. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque c'est un appel ce soir d'une décision que nous avons prise, on est en train de monter un mouvement citoyen, et on va donner rendez-vous non pas aux antivax, mais à tous ceux qui sont pour, à tous les citoyens qui n'ont pas envie de s'opposer bêtement, et qui savent que la vaccination peut nous sauver. 19 septembre à Paris, parvis du Trocadéro, on va faire un énorme rassemblement citoyen pour montrer justement à ces antivax qui ont une action criminelle, il faut le dire, qu'ils ont non seulement tort, parce qu'aujourd'hui, quand on a des personnes, demandées aux urgences à Marseille, sur les 148 personnes aujourd'hui, pas une, bien entendu, n'était vaccinée. Toutes étaient non vaccinées. Donc ce rassemblement, on va l'appeler dès ce soir, le 19 septembre, et on va montrer justement que ce n'est pas 250 000 personnes, ça va être des millions de gens. Un nouveau mouvement citoyen que nous allons lancer, qui s'appelle ACT, Activisme Citoyen, et de cohésion citoyenne et transmission. On va faire le premier acte justement le 19 septembre. Pourquoi ? Pour montrer que ça va être 250 000 personnes par ville. Et vous allez voir, il y a plein de villes qui vont reprendre ce mouvement-là. On va montrer qu'il y a des millions de gens qui se sentent citoyens. Ça veut dire quoi ? L'autre existe. C'est le bien commun, pour reprendre d'ailleurs le nom de votre société. C'est une très belle marque. Le bien commun, on l'a oublié. L'égoïsme aujourd'hui fait partie de cette société. Et je suis désolé, il faut combattre cet égoïsme pour du civisme, pour la citoyenneté, pour montrer que l'autre existe. Donc en ce vaccinant, c'est la meilleure solution. Mais vous savez que si on n'arrive pas à 92% de la population, on n'aura pas cette fameuse immunité collective. Donc on va attendre, encore, et on va se plaindre ensuite. Donc nous, voilà, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement activiste citoyen. On peut le faire avec de la transmission, avec beaucoup de bienveillance. Et on va communiquer de façon forte. Et vous allez voir, face à cet anti-vax de malheur, qui sera le vainqueur.
Bon, vous nous l'annoncez ce soir, en tout cas, si je comprends bien.
C'est annoncé ce soir.
Voilà, très bien. Eh bien, on va retenir cette information de votre part, Franck Tapiro. Donc, c'est la date, le...
Dimanche 19 septembre.
Voilà, c'est déjà prévu.
Prochain,
manifestation
du Trocadéro.
Pour le pass sanitaire et pour le vaccin, en quelque sorte.
Mais pour la citoyenneté au
pour
sens
la
global.
Citoyenneté.
Parce que c'est ça qu'on oublie aujourd'hui.
Allez,
c'est un problème de citoyenneté.
20h50, on va parler olympisme dans la dernière partie des informés. Dans une minute, d'abord, le fil info avec Frédéric Beniada.
France Info, les informés, Aurélien Accard.
Avec ce soir Antoine Boulet, président de Bien Commun Advisory, cabinet de conseil en stratégie de communication, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et le publicitaire Franck Tapiro. Ça y est, le drapeau olympique est arrivé à Paris, rapporté fièrement par la maire de la capitale, Anne Hidalgo, qui l'a brandi depuis la porte de l'avion au Bourget tout à l'heure, avion qui a ramené la délégation française de Tokyo, où se sont achevés donc les Jeux hier. Résultat, 33 médailles pour notre équipe de France, une 8e place au classement des médailles et des sports collectifs éblouissants, qui nous ont apporté des émotions fortes tout le week-end entre les handballeuses, les volleyeurs, les handballeurs, sans oublier nos équipes de basket. Mais ce bilan, il est présenté par le Comité National Olympique Français comme mitigé, Michel Taube.
Je pense qu'il l'est, à part le judo et l'escrime et les sports collectifs. Franchement, on a eu beaucoup d'échecs et de déceptions, notamment je pense à l'athlétisme, qui est quand même la discipline reine ou une des disciplines reines sur laquelle on a brillé un peu par notre absence. Moi, je veux rester positif. D'abord, je voudrais saluer nos amis japonais qui ont organisé des Jeux dans des conditions terribles. J'ai trouvé que les cérémonies d'ouverture et de clôture étaient extraordinairement belles. Et j'en parle parce qu'Emmanuel Macron a annoncé, je trouve que l'information est passée un peu inaperçue, il a annoncé il y a 15 jours que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris serait totalement inédite et se passerait sur la Seine et qu'on allait habiller toute la Seine. Ça va certainement être un événement extraordinaire. Moi, je veux prenons exemple sur les Japonais. Les Japonais ont terminé 3e des Jeux Olympiques. Donc, manifestement, le fait d'accueillir les JO et sans public a porté les sportifs japonais. Et donc, ils ont terminé 3e derrière les États-Unis et la Chine. Espérons que la France va passer en 2024 du 8e rang mondial au 3e rang. Et puis, dernier point, j'ai trouvé un amusante, là. Le duo Anne Hidalgo à Tokyo qui recevait le drapeau olympique et Emmanuel Macron sur la tour Eiffel entouré par des centaines de jeunes hier lors de la passation des pouvoirs entre Tokyo et Paris. Il y en a une qui sera forcément présente en 2024, c'est Anne Hidalgo, parce que soit elle sera maire de Paris, soit elle sera présidente de la République si elle se présente et qu'elle est élue. Quant à Emmanuel Macron, lui, c'est plus risqué, il a un obstacle ou une haie à franchir, c'est celle de 2022.
Antoine Boulet, Michel Taube le disait, les Japonais ont fini 3e de cette Olympiade. Nous, est-ce qu'on peut passer de la 8e place à une bien meilleure place dans seulement 3 ans?
Je voudrais une petite note d'optimisme, c'est que moi, je ne me considère pas du tout comme 8e, on est premier, nous. On est premier, parce que nous, on a eu 280 médailles, dont 87 en or, les USA 113, dont 39 en or, les Chinois 88, dont 38 en or, et les Russes 71, ont 20 en or. Nous, on en a eu 280, parce que moi, je suis européen, moi. Et l'Europe est la grande gagnante de ces Jeux Olympiques. Voilà mon commentaire.
Alors, enfin, quelque chose d'intelligent sur les Jeux Olympiques, parce que j'entends plein de conneries, vous avez totalement raison.
Vous allez dire enfin quelque chose d'intelligent dans
je
les
Jeux Olympiques. Je ne suis
pas sûr. Nous, d'Antoine Boulet, j'étais inquiet.
Justement, pour relever. Bravo. Ce que vous avez dit d'abord. Un. Deux, moi, je ne vois pas la France 8e. Ok. Vous croyez franchement qu'à l'époque de Coubertin, même des Grecs, on faisait la comptabilité du nombre de médailles par pays? Mais c'est n'importe quoi. Il y a des pays qui arrivent devant nous, personne n'en a entendu parler dans ces Jeux. Alors qu'en une journée, en deux jours, avec le handball masculin, le handball féminin, le volley masculin, mais on a fracassé tout le monde. Enfin, on oublie quand même que dans les sports collectifs, on a été monstrueux, à part au foot.
Où était Mbappé? Où étaient les stars
du
football français?
Le basket, une finale perdue de 5 points contre l'ogre américain, et on voit avec les 7 paniers ratés de Rigobert, etc. On a fait un super tournoi dans les sports collectifs. Enfin, d'habitude, on est meilleur en sport individuel. En escrime, même si c'est par équipe, on a été bon là. En judo, etc. Donc, encore une fois,
donc,
je
ça
vois.
Ça veut dire qu'on a un certain sens du collectif en France.
Mais bien, c'est ça qui. Pourquoi d'ailleurs ce mouvement citoyen qu'on lance et pourquoi.
Mais voilà.
Le collectif, le publicitaire fait sa pub. C'est pas de la pub pour vendre un journal ni rien, c'est pour vendre la citoyenneté. Eh bien, je veux dire, le collectif, c'est le début de la citoyenneté.
Je voudrais faire une remarque. D'abord, sur notre assemblée de ce soir, y compris avec notre ami du WWF. C'est que nous étions quatre messieurs. J'imagine que les dames que vous avez sollicitées n'étaient pas disponibles. Les messieurs se débrouillent toujours pour ouvrir leur bouche. Et donc nous, on s'est débrouillés, mais on n'avait pas forcément raison. Enfin bref, nous étions quatre messieurs, mais ça me permet de revenir sur un événement qui s'est déroulé aux Jeux Olympiques concernant les tenues des volleyeuses. Et vous avez vu cette polémique sur les tenues des volleyeuses qui étaient en l'occurrence...
C'est le beach handball, pardon, pas le volley.
Et sur lequel elles sont censées avoir une tenue spécifique pour les femmes. Elles ont une amende. Je trouve ça absolument pathétique. Et qu'il soit permis de dire que les sports, mais comme toute la société, et comme France Info pour les informer, mais j'imagine que nécessité a fait loi, on doit toujours être plus respectueux des diversités de genre et en l'occurrence des femmes.
Je crains qu'Antoine Boulet se soit trompé sur le décompte des médailles européennes, parce que je vous soupçonne d'y avoir ajouté la Grande-Bretagne, alors qu'elle ne fait plus partie de l'Union européenne.
Mais on est quand même bon, premier. Allez,
dans le doute, on est quand même bien placé.
On y soit qui mal y pense. C'est du français, pourtant voilà. C'est vraiment
anglais. Michel Thom, quand même, un dernier mot. À 3 ans, on sait que, justement, tout à l'heure, vous parliez des Japonais, ils avaient préparé tout un programme pour avoir des champions en forme. Les Anglais avaient fait pareil, ça s'était vu d'ailleurs les Olympiades précédentes. Et nous, c'est vrai que cette progression, en tout cas sur le nombre de médailles, hein, je ne dis pas que l'énergie n'était pas là et que les belles images n'étaient pas là, mais sur le nombre de médailles, on n'y était pas encore.
Je pense que ça va être très difficile. La réalité, c'est que ça va être très difficile d'être dans les 2-3 premiers. Enfin, deuxième, je pense pas. Je pense que et encore, les Russes n'étaient pas tous. Ils étaient présents sans être présents parce que le Comité national olympique avait été sanctionné. Non, ça va être très très difficile. Mais moi, je crois à la dynamique mobilisatrice. Je crois à tous les jeunes qui aujourd'hui ont 14-15 ans, qui dans 3 ans seront en âge de maturité, qui ont vu les Jeux olympiques là de Tokyo. Ça les a fait briller dans les yeux.
Là, on peut dire
ça leur a donné envie de
il y a pas mal de jeunes qui, après une année loin du sport, loin du avec le Covid, etc., vont s'inscrire au volley, au handball, au basket, on peut espérer ça en tout cas.
Le meilleur exemple, c'est le judo. Le judo, c'est extraordinaire. On a tous fait du judo quand on était petit parce qu'il y avait un maillage de la population.
Oui, moi, j'ai fait du judo.
Parce que vous êtes moins jeunes que nous, malheureusement. Mais non, c'est vrai. Non, il y a toute une politique dans certains sports français, notamment individuels, où on peut espérer avoir des médailles. Mais c'est vrai qu'il va falloir se battre parce que les autres pays, ils se préparent.
Et la médaille d'or du public, on oublie que peut-être nous, on aura la chance. Dans 2 ans, d'avoir un public, et ça je peux vous dire que le public va être à fond. À fond.
Merci à vous.
Les Français l'attendent vraiment.
Les informés qui étaient à fond effectivement ce soir, et particulièrement Franck Tapiro, publicitaire. Merci à vous Antoine Boulet, président de Bien Commun Advisory. Et merci également à Michel Thom, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Merci également à Arnaud Goffier qui a participé tout à l'heure au débat sur le rapport du GIEC responsable des programmes à WWF. Très bonne soirée sur France Info.